Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui, comme promis, nous allons parler des dark stores, mais également des filières laitières et bovines, des initiatives des restaurateurs en temps de Covid, de la levée de fonds des Vivino, ainsi que de Louis Vuitton, mon ancien employeur, qui se lance dans les cafés et chocolats au Japon. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Les Échos. Livraison, Cajou lève 6 millions pour livrer les courses en 15 minutes. Dans l'article, on apprend que la société Cajou va installer des mini-entrepôts, donc des dark stores dans les jargons des professionnels, dans toute la ville afin de livrer des produits alimentaires, d'hygiène et de nettoyage.
Et oui, et la semaine dernière, on vous parlait de Dark Kitchen, donc voilà un nouveau terme.
Aujourd'hui, Dark Store.
Dark Store. Donc,
quand est-ce qu'on va parler des Dark Vader?
Bientôt, là, ça va arriver. En tout cas, c'est une grosse levée de fonds, parce que c'est une levée de fonds en seed en plus. Donc 6 millions d'euros. Cajou arrive à un moment où, en fait, finalement, il va y avoir des commerces, malheureusement, qui vont fermer pour de bon à cause de la crise sanitaire. Il y aura probablement des bonnes affaires à faire pour reprendre des locaux, hein, clairement.
C'est clair.
Et l'idée de Cajou, vraiment, c'est de mailler une ville. Donc là, ils s'attaquent à Paris pour commencer. Mmh. Ils vont avoir des entrepôts probablement proche du périphérique, je suppose. Il me semble qu'ils espèrent mailler Paris avec 10 ou 12 entrepôts.
Ah, quand même.
Ouais. Pour livrer en 15 minutes. Alors,
c'est justement la promesse qui les démarque aujourd'hui, c'est cette rapidité des livraisons. Il y a les présidents, donc les fondateurs, qui est l'ancien DG des Bolt pour la France, qui dit on va rentrer sur les marchés par les moments d'urgence non planifiés. Donc les achats, comme on fait un apéro avec des potes et dernière minute, voilà. On veut s'acheter une bouteille d'apérol, ouais. Un truc comme ça, quoi.
Ouais. Et bon, après, on aurait bien aimé tester, nous, ce matin. Hein, mais
Justement, on a regardé sur l'appli pour pouvoir se faire livrer et tester la promesse des 15 minutes. Malheureusement, pour l'instant, il est disponible. Donc, l'appli, les services, est disponible que dans les premiers, deuxième et neuvième arrondissements. Je suppose que le premier entrepôt se situe dans ces quartiers-là. Et ce qui est très intéressant dans la démarche, il dit qu'il va vouloir intégrer toutes les opérations. Donc, l'achat de produits, la logistique, les remplissages des sacs et la livraison de domicile. Il y a zéro intermédiaire pour qu'il puisse garder le maximum des valeurs au sein de la société.
C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre Cajou et Uber Eats ou Deliveroo qui vont bosser, eux, par contre, avec des distributeurs Franprix ou d'autres. Donc, effectivement, Cajou n'aura pas à faire la course pour aller chercher chez l'intermédiaire Picard ou Franprix. Donc ça, il va gagner du temps là-dessus aussi. Hein.
Bien sûr. Et on continue sur Cajou, en fait, avec un deuxième article. Là, c'est pas un article, c'est plutôt un post, en fait, sur Medium, la plateforme Medium. Pourquoi nous investissons 6 millions d'euros dans Cajou? Donc là, cet article a été rédigé par Pierre Entremont, cofondateur du fonds First, qui est le fonds qui a investi dans Cajou, qui explique pourquoi ils ont investi dans les startups.
Oui, en fait, Cajou est calqué sur un modèle qui existe déjà à l'étranger. On a GoPuff aux États-Unis, Dija au Royaume-Uni, Gorillaz aussi
en Europe,
en Allemagne notamment, je crois. Mm-hmm. C'est finalement... Là, on retrouve aussi quelque part l'idée de la ville du quart d'heure. Mm-hmm. C'est un terme qui revient de plus en plus, où finalement, c'est l'idée d'avoir tout à portée de main en moins de 15 minutes. Mm-hmm. Alors là, dans ce cas-là, c'est se faire livrer en 15 minutes... il vous manque un peu de raclette pour faire votre raclette ce soir ou une bonne bouteille de vin. Donc la promesse, elle est de vous livrer ça dans les meilleurs délais. Mmh. Là où finalement, je pense des acteurs comme Uber Eats et Deliveroo, c'est faut au minimum 30 minutes. D'autres acteurs, si vous commandez en grande distri, c'est un peu plus long, c'est peut-être le lendemain. Mmh. Je pense à un autre acteur comme La Belle Vie qui a une promesse en 3 heures. Mmh. Donc Le temps diminue, le temps de livraison diminue. Est-ce que le service sera effectivement 15 minutes ?
On aurait bien testé. Moi, ce qui m'a attiré l'attention aussi, c'est qu'il dit Pierre, c'est qu'avec les mini-entrepôts, ils ont une contrainte d'assortiment produit qui doit être plus limitée, évidemment, que dans les grandes surfaces. Et il dit que c'est une contrainte qu'on doit embrasser et faire une force. Et justement, il dit que l'offre de chaque entrepôt va évoluer en fonction de la demande des consommateurs. Donc, il dit que, par exemple, demain, dans le 16e arrondissement nord, on n'aura pas les mêmes inventaires que celui du 20e arrondissement. Voilà. Donc, c'est très intéressant, en fait, la force de la data qui va les aider à peaufiner l'offre pour répondre aux demandes des consommateurs.
Effectivement, on peut imaginer des quartiers où ils auront du caviar et d'autres où ils n'auront pas forcément de produits grand luxe, etc. Parce que ça va dépendre si vous êtes dans un quartier populaire, les gens vont aller sur probablement du basique, alors que dans d'autres quartiers, il y aura peut-être... Ça tient aussi finalement aussi aux générations. Les jeunes vont peut-être vouloir plus de l'apéro.
Chaque quartier,
si vous êtes
chaque
dans des
ville
quartiers
aura une offre.
Plus familiaux, l'offre... effectivement, c'est intéressant. Mais je pense que du coup, leur algorithme va s'affiner au fil du temps. Donc, il va leur falloir quelques semaines avant d'être un peu rodé.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est qu'il dit encore, Pierre, il dit, en fait, c'est la data qui en décidera. Je ne serais pas étonné de voir un jour de la burrata à la truffe dans les cajous de la rue des Martyrs. Pierre, je vais bien te croire, mais là, pour l'instant, je me suis baladé dans l'appli cajou. Et franchement, à l'heure actuelle, c'est quand même les royaumes de la malbouffe. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire.
Ouais, j'ai regardé aussi, il n'y a pas forcément de plats préparés maison comme on trouve chez certains acteurs. C'est effectivement des produits de base, mais ça tient aussi à l'assortiment.
Oui, c'est les produits qu'on retrouve en grande surface. Voilà,
clairement. Oui, il vous manque un produit vaisselle, il vous manque une bouteille de vin ou un pack de bière. C'est des choses comme ça.
Tout à fait.
C'est les produits qui sont le plus vendus, en fait.
Oui, bien sûr.
Voilà. Après, ça se comprend.
On est d'accord. On continue avec un sujet qui concerne une des filières les plus importantes en France. C'est sur Les Échos, comment la filière lait veut reconquérir les Français. Alors Olivier, c'est un article très complet sur les défis que doit affronter la filière laitière en France.
Oui, les défis sont nombreux.
Énormément.
Un des premiers défis déjà, c'est le renouvellement des générations.
C'est clair.
On a aujourd'hui 54 000 exploitations laitières en France. On a chaque année 5 000 producteurs qui partent.
Qui arrêtent,
parce que c'est un métier
très, très dur,
compliqué. Et il y en a seulement 2 000 qui se lancent. Donc,
un déficit des 3 000 par an.
Tous les ans,
quoi.
On perd 3 000 producteurs laitiers.
Ouais, et c'est comme tu dis, c'est un métier qui est très difficile. En fait, ils travaillent 7 jours sur 7. La rémunération est loin d'être à l'auteur de la charge de travail.
Et oui, là où un céréalier, il n'a pas besoin de forcément checker ses céréales tous les jours, votre vache... il faut aller la voir tous les jours. Tous les jours, il faut aller la traire.
On ne peut pas partir en vacances.
On ne peut pas partir en vacances ou alors il faut pouvoir se payer quelqu'un
pour
être remplacé sur l'exploitation.
Ouais, il y a même une exploitante dans la Vendée qui a dit « Aujourd'hui, on m'achète mon lait au même tarif que lorsque j'ai débuté en 1986 ».
Ah oui,
ça fait pas rêver ça.
Le prix du lait a été très peu valorisé si on prend par rapport à d'autres produits. On voit les céréales récemment ont quand même encore augmenté. Le prix du lait, lui, il a tendance à stagner. Je parle du lait conventionnel, le bio est un peu mieux payé, un peu mieux rémunéré, mais ça tient aussi. C'est une question de bon vouloir aussi des acheteurs de lait.
Bien
donc
sûr.
Pas forcément que nous, consommateurs. Je pense que les consommateurs, eux, ils sont prêts à payer du lait plus cher. Il y a des initiatives qui fonctionnent très bien. Je pense à C'est qui le patron qui propose un lait un peu plus cher aux consommateurs. Derrière, c'est peut-être aussi aux industriels, à la grande distribution, à tous ceux qui achètent du lait, peut-être de prendre en compte la bonne rémunération des agriculteurs.
On est d'accord. On a fait un épisode et au tout début des Business of Bouffe avec les DG de Deux Vaches, donc une marque qui appartient au groupe Danone, Christophe Audouin, et justement ils nous expliquaient que dans leur démarche, ils avaient même réduit leur budget marketing pour pouvoir mieux payer les producteurs, pour leur permettre de partir en vacances. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives, il y a des lois qui sont passées, qui ont permis d'améliorer les choses, justement. Et aujourd'hui, par exemple, les les transformateurs et distributeurs sont en principe tenus de négocier à partir d'un prix d'achat acceptable. Et on a vu que ça portait une augmentation de 2,5 centimes par litre sur les deux dernières années. Sauf que cette loi s'applique qu'au volume des laits transformés en produits de grande consommation pour les marchés français. Mais tout ce qui est lait en poudre et d'autres types de consommation de lait, qui représentent quand même des volumes très importants, là, les prix restent très, très faibles, en fait.
Oui, c'est des marchés mondiaux. Hein. Tout ce qui est lait en poudre, beurre, tout ça, c'est des cours mondiaux. Et finalement, on a quand même 40% de la production de lait en France qui est exportée, qui est par l'export.
Voilà.
Donc, 40% de cette production qui est soumise aux cours mondiaux aussi. Et par contre, au-delà du prix, il y a aussi la baisse tendancielle
des volumes
du lait consommé en France.
Oui. Apparemment, 25% des baisses des consommations du lait sur les dernières 15 années.
Ouais. Donc, ça tient finalement aussi au fait que on prend peut-être moins le petit déjeuner comme on le prenait dans les années 80 avec des céréales, etc. Il y a eu une offre peut-être snacking qui s'est développée aussi sur le petit déjeuner qui fait qu'on prend moins de lait avec des céréales. Il y a certaines désaffections, peut-être des intolérants au lactose qui viennent aussi. Et il y a aussi derrière le succès, faut pas se leurrer, de tous ces laits alternatifs.
Bien sûr, les laits végétaux.
À base d'amandes, à base de noisettes, de soja, d'avoine.
Tout à fait.
Qui quand même commencent à prendre des parts de marché au lait conventionnel.
Alors, ce qui est intéressant de l'article, évidemment, l'article n'apporte pas que une vision négative de la filière. Il montre aussi qu'il y a certains éleveurs qui ont choisi de faire les choses différemment, s'y tourner vers les bio pour avoir une rémunération plus intéressante. Et même ceux qui décident d'être transformer sur place, en fait, et de rajouter de la valeur dans leur production. Est-ce que tu peux nous citer, par exemple, quelques cas ?
Y a effectivement des exploitants qui ont décidé de faire des ateliers de transformation sur leur ferme, donc dans un des bâtiments de la ferme, pour transformer soit en crème glacée, soit en yaourt. Il y en a certains qui font même des caramels.
Des caramels, ouais. Ils citent un producteur qui a créé une marque, les Carameux.
Oui.
J'adore.
Donc, il y a des initiatives au niveau des exploitants agricoles. Il y a des initiatives aussi au niveau des groupements de producteurs, avec des laits de type Fair France, des laits un peu éthiques, locaux, ou même un autre lait qui s'appelle Juste et Vendéen, par exemple. Donc il y a des initiatives locales qui mettent en avant aussi le fait qu'elles payent mieux les producteurs, et qui l'affichent aussi sur la brique de lait.
Pour que le consommateur puisse aussi, eux, participer à ces changements-là. Quoi. On a fait un podcast aussi très intéressant avec les fondateurs donc, de la Mémère, donc c'est une marque des glaces, Arnaud Montebourg et David Wesmael, et que j'invite tout le monde à écouter parce que c'est vraiment un podcast passionnant. Et donc la Mémère, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des joint ventures, des JV, des sociétés en partenariat avec des éleveurs. Ils installent dans la ferme un mini labo, dans des containers, un mini labo de transformation des glaces, et comme ça les producteurs, ils peuvent transformer son lait et glace et les vendre évidemment à un prix beaucoup plus important que celui qu'ils vendaient auparavant. Donc des initiatives comme ça, il faut les saluer, et les consommateurs doivent jouer les jeux aussi.
Oui, et puis je pense que la percée des circuits courts va aussi peut-être aider ces agriculteurs qui investissent, parce que faut voir aussi qu'il y a quand même de l'argent pour créer un outil de transformation.
C'est clair.
Et c'est des éleveurs qui ont déjà pas mal investi dans leurs bâtiments, dans leurs bêtes. Certains ont pris un robot de traite. Donc, il y a beaucoup de dettes déjà derrière. Donc, est-ce que l'agriculteur est prêt à aller encore s'endetter pour faire un outil de transformation? Il faut quand même lui assurer un certain débouché.
Justement, c'est ça qui est intéressant dans la démarche de la Mémère, c'est qu'il crée une entité, un joint venture, donc les fermiers et la Mémère, et c'est cette entité qui va s'endetter. Donc, ce n'est pas le fermier, lui, à titre individuel. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est une façon un peu moderne de voir les choses, et je pense que de toute façon, il faut continuer vers cette évolution-là. Olivier, je te propose de changer des sujets pour parler d'une autre filière très importante en France, c'est la filière bovine. Et là, c'est un article sur l'Opinion, l'élevage français, un paradoxe gros comme un bœuf. Alors Olivier, dans l'épisode 4 d'It's Business, on parlait justement de la filière bovine qui, grâce au confinement, avait vu ses ventes en volume augmenter de 1,6% en 2020. Mais cette augmentation ne s'est pas transformée en augmentation des valeurs pour les producteurs.
Oui, tout à fait. Les prix de la viande ont connu des baisses qui allaient jusqu'à 15%.
15%, quoi.
Donc, effectivement, les volumes ont augmenté, mais les prix n'ont pas suivi. Mmh. Donc, on se retrouve quand même, en plus, en parallèle, comme les prix des céréales ont augmenté et que l'alimentation animale, c'est le gros des coûts pour les éleveurs bovins. Il y a des coûts d'alimentation animale qui ont augmenté de 30
à 50%. 30 à 50%. Donc, en fait, les prix ont baissé, les coûts ont augmenté, leur marge a été détruite, en fait, pratiquement.
Voilà, et l'Institut de l'élevage a calculé qu'en 2019, c'était 10 500 euros en moyenne de revenus par éleveur bovin.
Par un ?
Par an.
Oh là là !
Et que ça a chuté encore de 25% en 2020.
Oh là là !
Donc,
c'est vraiment une situation très compliquée. On apprend aussi que la baisse des prix vient notamment des exportations françaises qui sont malgré tout tenues vers l'Italie. En fait, et je ne savais pas, c'est un pays qui achète 80% des broutards et jeunes bovins français. C'est entre le veau et la vache, entre 8 à 18 mois.
Voilà, on a l'Italie, on avait aussi la Grèce à un moment donné qui était... un gros client de la France pour ça. Mmh. Donc, effectivement, c'est une filière... 80%, c'est énorme. Hein.
Bien sûr.
Et du coup, les veaux, on les fait engraisser là-bas. Mmh. Et c'est une partie de la valeur ajoutée, finalement, qu'on perd aussi, puisqu'on envoie des veaux qui, quelque part, sont pas finis. On les envoie à l'engraissage là-bas. Et du coup, comme ça, ces prix-là ont baissé, ça influe fortement sur la filière.
Hein. Oui, les ministres de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui suit d'ailleurs Business of Bouffe, qui pointe un problème structurel. Il a dit qu'il y a clairement un problème des trop grandes dépendances au marché italien pour toute une partie de notre production qu'on ne consomme pas culturellement en France. Et il rajoute aussi, c'est dommage car la viande de ces broutards ou jeunes bovins, elle est tendre, appréciée des enfants.
Tout à fait.
Et il lance un défi donc aux collectivités locales et des entreprises des restaurations pour les inciter à inscrire cette viande française à leur menu. Elle pourrait avantageusement remplacer la vache des réformes allemandes qui est souvent servie aux enfants ou aux restaurations collectives.
Oui, parce qu'il faut savoir aussi que la viande bovine qu'on mange, c'est pas tout le temps que des bovins qui ont été élevés pour leur viande. Bien on sûr. Mange souvent de la viande qui est issue de vaches laitières qui sont quelque part plus productives et que les éleveurs vendent aux abattoirs pour leur viande.
Donc c'est une viande quoi, de moins bonne qualité ou qui est pas...
C'est surtout, ça fait pression sur les prix.
Bien sûr.
C'est-à-dire que vous êtes un abattoir... Vous achetez moins cher une vache de réforme qu'un bovin.
Sûr, parce qu'elle a déjà, on va dire, elle a plus de valeur, voilà. Parce qu'elle génère plus de lait. Donc,
c'est une filière qui dépend aussi fortement de la filière laitière. Si le lait va bien, on n'a pas trop de vaches de réforme qui arrivent à l'abattoir. Mmh. Si la filière va mal, on a des éleveurs laitiers qui, par moment, vont vendre une partie de leur cheptel pour les envoyer à l'abattoir. Donc, du coup, ça fait une pression à la baisse sur les prix.
D'accord.
Et vous êtes l'abattoir, vous dites, attendez. En face, moi j'ai tel prix, pourquoi je prendrais vos bovins ?
Bien sûr.
Donc il y a vraiment ces abattoirs qui jouent aussi pas mal là-dessus.
D'accord. Bah écoutez, on va suivre ces sujets avec attention. On va changer d'un sujet. On parle toujours d'une filière importante en France. Cette fois-ci, c'est la boulangerie et c'est sur Ouest France. La France manque des boulangers. 9000 postes sont à pourvoir. Alors Olivier, on apprend dans cet article que le secteur de la boulangerie-pâtisserie peine à recruter en fait.
Oui, c'est assez étonnant. Hein. On a plusieurs secteurs de l'agroalimentaire comme ça qui ont du mal à recruter. Alors, on parle beaucoup de chômage. Donc, c'est bien aussi de dire qu'il y a des secteurs qui recrutent.
Bien sûr.
Et là, dans ce cas-là, il y a quand même un secteur qui cherche 9000 personnes.
9000, c'est énorme quand même.
C'est quand même énorme. Mmh. C'est un beau métier. C'est un métier qui est difficile aussi. Mais
on se lève un peu tôt, mais à part ça, c'est un beau métier.
Oui, mais quelque part, c'est un métier qui a évolué aussi.
Bien sûr.
Finalement, on a peut-être plus besoin de se lever aussitôt hein, dans certaines villes. On voit que les gens ne font plus forcément leurs achats de pain et de croissants
à 7h du matin.
À 7h ou 6h30 du matin. On a des boulangers aujourd'hui qui travaillent, enfin on en a un à côté là, qui ouvre seulement à 17h hein, par exemple. Donc le Brigeton, c'est certains boulangers ont aménagé leurs horaires. Il y en a d'autres qui font aussi...
Qui ferment le week-end.
Qui ferment le week-end ou qui font des cours pour apprendre à faire son propre pain. Mm-hmm. Donc, c'est un métier qui a évolué aussi. Hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'alternants. En fait, au niveau de la formation, on parle de 24 000 jeunes qui sont en apprentissage dans une boulangerie. Donc, c'est quand même... On a de la matière, on a une génération prête à reprendre le relais.
Je pense qu'il y a une génération qui est prête à prendre le relais. c'est un métier qui, à mon avis, va rester. Hein. On aime bien sa baguette. La France, on est quand même très attaché à la baguette. Hein. Mm-hmm. On veut même la mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça reste le produit phare de notre gastronomie, mine de rien, même à l'étranger. Hein.
On est d'accord.
Et c'est un métier quand même qui est... Je pense qu'il est revalorisé pour ceux qui travaillent.
Bien sûr.
Alors, on a aussi beaucoup d'industriels.
Oui, on a les deux.
On voit des reportages à la télé qui présentent un peu...
qui reçoivent leurs baguettes surgélées et qui les chauffent.
Mais je pense que chez les jeunes, il y a aussi une envie de revenir vers du pain au levain, vers...
Avec des farines des qualités.
Travailler ces produits. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens sont prêts à mettre le prix pour des bons produits.
On est d'accord. Et c'est vraiment, comme tu dis, un métier passionnant. On a eu la chance d'avoir quelques boulangers sous les micros, au micro des Business of Bouffe, et à chaque fois on apprend des choses et ça nous donne vraiment envie de mettre la main dans la pâte, quoi.
Oui,
et de faire son propre pain. Toi, tu as un copain, un Figure au pain, qui fait des super bons pains, lui.
Ah, t'as vu, oui, ouais. Allez le suivre sur Instagram, vous verrez, il fait même sa pâte à pizza.
Ah, moi, il me donne envie avec ses focaccia et tout.
Il faudrait qu'on l'invite une fois
et qu'il vienne
nous en parler.
Avec grand
plaisir. Figure au pain, t'es bienvenu quand tu veux.
Olivier, on va parler maintenant d'un sujet qui est beaucoup moins drôle, en fait. On parle des jeunes talents, de la relève, et les médias, ils ont beaucoup communiqué les dernières semaines sur la situation des pénuries pour laquelle passent beaucoup d'étudiants suite à la crise sanitaire.
Oui, effectivement, on a une grosse pensée pour les étudiants hein, qui sont en plus enfermés chez eux dans leur chambre d'étudiants à faire des cours en ligne toute la journée. Ça ne doit pas être très rigolo.
En plus, ils n'ont pas les petits jobs.
Et ils ont surtout, c'est ça, c'est que beaucoup ont des jobs de serveur ou des petits jobs pour joindre les deux bouts. Et là, ils sont vraiment dans une situation précaire. Et il me semblait intéressant de montrer quand même certaines initiatives qu'ont mis en place les restaurateurs. Hein. Je pense là à un restaurateur...
Avant de parler des restaurateurs, je te propose, Olivier, parce qu'en fait, il a une vidéo sur les Figaro. À Cergy, des étudiants reçoivent une aide alimentaire précieuse. Et c'est une vidéo très intéressante. Moi, ce que je propose à toi et à nos auditeurs, c'est d'écouter un petit passage de cette interview.
On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leurs emplois, beaucoup d'étudiants qui vivent tout seuls et qui n'ont pas l'appui de leurs parents parce qu'ils sont loin ou pour X raisons. Et en fait, on s'est dit que, ayant nous-mêmes parfois du mal à boucler les fins de mois, la première chose dont on a besoin, c'est de la nourriture. Donc on s'est dit, on va distribuer de la nourriture.
Alors tout d'abord, je suis la maman d'une étudiante parce qu'elle n'a pas pu se libérer, elle est en cours. Moi, je viens sur ma pause déjeuner pour recueillir ce qui leur est offert. C'est très, très appréciable, cette aide, parce que au-delà des étudiants, ça aide également des familles qui, comme moi, nous sommes donc famille monoparentale. Je suis toute seule en travaillant à temps partiel avec deux étudiantes à charge. C'est très, très difficile. C'est terrible d'en arriver là. J'ai un peu honte. Je vous cache pas que j'ai un peu honte d'être ici et de devoir venir faire comme ça, mais je n'ai pas le choix.
La situation, elle n'est vraiment pas facile, hein, Olivier.
Non, ce n'est pas facile. Et je pense que le gouvernement en a pris conscience. Hein. Ils ont annoncé que tous les menus étudiants dans les Crous et les Restos U passaient à 1 euro pour tout le monde cette fois-ci. Parce qu'effectivement, on imagine en plus que faire la cuisine dans une petite chambre d'étudiants, ce n'est pas toujours très simple.
C'est clair.
Et là, je pense que les initiatives des restaurateurs sont intéressantes parce que eux, ça leur donne l'impression quand même de reprendre une activité, un semblant d'activité. Et je pense que le fait de proposer, je pense, de restaurateurs...
Oui, justement, donc sur les Figaro, il y a un autre article sur les mêmes sujets, c'est les menus, un menu des restaurants facturé 1 euro pour les étudiants à Paris. C'est un super bon plan. C'est les restaurants Le Reflet dans les 3e arrondissement qui proposent cette alternative-là.
Oui, c'est 1 euro, donc c'est en...
Un triple à dessert.
C'est en click and collect, hein, évidemment.
Bien sûr.
Mais ils proposent ça pour les étudiants. Donc, je pense que c'est... Quelque part, c'est aussi apporter un complément nutritionnel intéressant parce que si les étudiants ont peu de revenus, ils vont peut-être plus manger des pâtes ou des choses qui calent et qui ne sont pas chères. Alors que là, ça leur permet d'avoir une cuisine un peu plus variée aussi. Et je pense que ça redonne un peu le sourire aussi aux étudiants de manger quelque chose de un vrai plat.
Et ce qu'il faut souligner au restaurant Le Reflet, c'est qu'en fait, la particularité de ces restaurants, c'est que la majorité de salariés sont porteurs de la trisomie 21, en cuisine commensale, et ils avaient chaud de pouvoir aider les restaurateurs avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Donc, on félicite cette initiative. Toujours sur les mêmes sujets, mais maintenant à Grenoble, la ville d'origine de notre super stagiaire Julie, c'est sur France 3. Grenoble, des petits plats mijotés à 1€ pour aider les étudiants en difficulté.
Oui, cette fois-ci, c'est le restaurant chez Marius qui propose des repas à 1€. Donc, en fait, pour en profiter, le restaurant a mis en place une sorte de doodle sur lequel les étudiants peuvent s'inscrire.
Choisir leur créneau.
En avance aussi, évidemment, parce qu'on imagine que les quantités de ces menus-là sont limitées.
Bien sûr.
On n'a pas une quantité illimitée de menus. Donc, pour le restaurateur, il faut aussi qu'il s'organise. Mais en tout cas, le restaurant chez Marius à Grenoble, qui propose ça. Donc, on invite les restaurateurs qui proposent ce genre d'initiative peut-être à nous envoyer un mail et on se fera un plaisir de relayer dans la newsletter.
Oui, et surtout, on félicite donc les Reflèches et Marius. Bravo, on vous kiffe grave ici chez Business of Bouffe. Et la France, c'est vraiment un pays extraordinaire. Nous avons beaucoup d'initiatives là pour aider les étudiants en situation précaire. Et ça, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. On va continuer sur les restaurateurs, mais là, cette fois-ci, c'est les restaurateurs qui s'inventent dans cette période des crises. Et là, c'est un article sur Le Figaro. Ça donne les sourires. Ces restaurateurs qui vendent leurs plats en grande surface. Alors là, Olivier, je trouve la démarche super intéressante. Explique-nous comment ça marche en fait.
Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on met souvent la grande distribution, on a tendance à la critiquer, hein, mais là, il y a quand même des initiatives intéressantes dans certains supermarchés. Je pense à des hypermarchés Leclerc, Intermarché ou Carrefour dans certaines régions. C'est en fait tout simplement proposer à un restaurateur qui a un food truck de venir s'installer sur le parking de l'hyper. Mmh. Donc, ça lui permet aussi d'avoir un flux de clientèle qui vient. Il y a d'autres initiatives intéressantes aussi. C'est carrément des hypermarchés qui ont proposé à des restaurateurs de leur donner un bac réfrigéré dans lequel ils vont proposer des plats emportés pour les clients du magasin.
C'est très chouette. En fait, c'est la situation d'un restaurant des gastronomies portugaises dans l'Isère. Et la propriétaire, elle dit « J'ai envoyé un email à Intermarché de ma ville et ils ont gentiment accepté de nous accorder un emplacement où sont désormais disposés nos plats. » Donc, on peut trouver de la morue et quelques plats de la cuisine portugaise au supermarché, prêts à manger à la maison. Et en fait, c'est qu'elle dit tous les jours, je pense que c'est les patrons de l'Intermarché, Julien Simonet, donc ça, c'est un autre Intermarché dans l'Yvonne. Il a dit que tous les jours, les restaurateurs viennent remplir un bac réfrigéré pour mettre à disposition de consommateurs. Et il a dit, on a commencé vendredi dernier et ce week-end, ça a super bien marché. Donc évidemment, les consommateurs, ils ont envie de manger bon, pas cher. Et finalement, si on peut retrouver des plats avec la qualité du restaurant disponible en grande surface, fait la veille ou fait le matin même, c'est vraiment une excellente solution qui est gagnant-gagnant en fait.
Tout à fait. Et Michel-Édouard Leclerc, le PDG du groupe Leclerc, a annoncé que c'est des initiatives qui existent déjà dans certains hyper Leclerc et que le groupe est en train d'étendre le système à l'ensemble du réseau. Donc, on incite fortement ce genre d'initiatives qui sont super sympas.
C'est clair, ça donne des très bonnes idées à nos amis restaurateurs. Et maintenant, on va direction aux États-Unis avec un article qui va intéresser les amateurs des vins et technologies. C'est sur TechCrunch. Vivino raises $155 million for wine recommendation and marketplace app. Vivino lève $155 million pour la recommandation des vins et l'application et la place des marchés. Alors Olivier, c'est une très belle somme d'argent pour Vivino. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec cet argent ?
Alors en fait, ils veulent utiliser cet argent pour améliorer leur techno. Hein, finalement, je ne sais pas si vous connaissez Vivino.
Ah, je connais très bien.
Moi j'utilise souvent, c'est une de mes applis préférées quand je suis au restaurant et que je découvre un vin. Vous prenez l'étiquette de la bouteille en photo et c'est assez magique. Hein, ça va vous trouver de quel vin il s'agit.
Bien sûr.
Avec des commentaires aussi de dégustation, des avis, même parfois le prix de la bouteille, le prix moyen de la bouteille.
Et on peut même acheter, en fait. C'est ça la force des Vivino qu'il a apporté depuis quelques années. En fait, moi, il y a 3 ans, je me suis même abonné. Ils avaient une offre premium comme Amazon Prime, en fait, où j'ai payé 40€ par an et j'ai payé plus de frais de livraison.
D'accord.
Et en fait, j'ai profité de cette offre parce que j'ai passé des commandes à chaque fois d'une, deux bouteilles pour découvrir. Et finalement, évidemment, Vivino a arrêté parce que c'était vraiment pas rentable. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, moi, à titre perso, j'utilise Vivino plutôt comme une base, en fait, une base des données où j'ai stocké, en fait, tous les vents que j'ai consommés avec mes notes personnelles. Ce qui est intéressant dans cette levée-là, c'est que l'entreprise a été évaluée entre 600 et 800 millions de dollars quand même. Donc, ça c'est pas une licorne, mais ça commence à être une valorisation assez importante.
Oui, puis c'est une entreprise qui a déjà plus de 10 ans. Hein. Elle a été lancée en 2010. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a connu une croissance assez rapide sur les deux dernières années, parce que sa base d'utilisateurs, elle est passée de 29 millions d'utilisateurs en 2018 à 50 millions aujourd'hui.
Ça s'accélère, en fait.
Donc, c'est assez intéressant. Hein. C'est une belle croissance pour une entreprise qui a 10 ans. Je sais pas comment il l'explique, par contre, qu'est-ce qui fait que ça a pris aussi vite d'un coup. Mais en tout cas, moi, c'est une appli que j'aime bien aussi, personnellement.
Ouais, c'est qu'il dit, en fait, c'est qu'il commence à avoir une taille critique importante et du coup, c'est plus facile d'être visible, de faire de la croissance et d'établir des accords avec les différents vendeurs aux plateformes qui vendent du vent sur Internet pour avoir cette marketplace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aujourd'hui présents dans 17 pays et ils ont un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars. Mais là, avec cette levée, ils veulent se focaliser dans les 5 pays où ils sont les plus forts, qui sont notamment les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, le Portugal et le Japon. Donc, ils veulent vraiment devenir un gros acteur dans ces pays-là, d'abord, avant d'aller attaquer d'autres pays. C'est ce qui me paraît très logique.
J'étais même étonné de ne pas voir la France dans ces 5 pays. Mais bon, chez nous, on utilise peut-être moins Vivino. Mais...
Je pense que Vivino est moins populaire ici qu'ailleurs.
Mais en tout cas, moi, il y a un chiffre qui m'avait marqué aussi dans cet article, c'est qu'ils ont un stock de 1,5 milliard de photos d'étiquettes.
C'est
donc
énorme.
Tout ça pour nourrir leur algorithme.
C'est génial.
Ils ont quand même de l'avance sur pas mal de monde.
C'est ça. Aujourd'hui, ils ont atteint une place qui sont. On peut pas. En fait, Vivino va devenir une énorme référence dans le monde du vent. On va avec un dernier article maintenant, direction le Japon, avec un article sur la publication dédiée à la mode, les WWD. Louis Vuitton expands Tokyo with new tower, cafe and chocolate shop. Louis Vuitton s'agrandit à Tokyo avec une nouvelle tour, un café et une boutique des chocolats. Alors Olivier, je ne m'attendais pas à retrouver un article de mon ancien employeur sur It's Business.
Oui, moi non plus. Et en fait, l'article est assez long, ça parle beaucoup de mode et tout ça au début, mais c'est la fin de l'article qui m'intéressait moi, qui parle effectivement du fait que Louis Vuitton pourrait potentiellement se lancer quelque part dans l'alimentaire. Alors, ils l'ont déjà fait.
Ça,
parce
je
qu'ils
crois
ont,
pas du tout. Hein.
Ils ont déjà un restaurant qui a ouvert au Japon, hein, toujours.
Oui.
Et là, cette fois-ci, on parle d'alimentaire dans le sens où ils ouvrent un café à Tokyo et un magasin de chocolat. A priori, au sigle Louis Vuitton.
Oui, moi, pour connaître et pour avoir travaillé dans les équipes et stratégies au niveau de la holding chez LVMH, je connais un peu la vision du groupe par rapport à ça. Je pense pas qu'ils ont envie d'aller vers l'alimentaire. Bernard Arnault, il a investi il y a longtemps chez Carrefour et c'est un investissement que je pense l'a marqué de façon négative. Donc, ils ne sont pas attirés par cette industrie-là. Par contre, en fait, ils ont une envie d'élargir l'expérience des marques au-delà des produits et des boutiques. Et en fait, le secteur du luxe, il a un intérêt par l'hospitality qui date déjà depuis de 20 ans avec Versace, Armani, Fendi, Bulgari qui sont tous lancés dans l'hôtellerie. On a plein d'hôtels en Italie, mais à Dubaï, en Asie avec ces marques-là. Et la restauration les intéresse aussi de plus en plus, mais vraiment dans une démarche d'élargir l'expérience des marques. Je ne pense pas qu'ils s'intéressent vraiment à avoir un business rentable autour de la restauration.
Oui, on a de Café Armani, par exemple,
Café
à Paris.
Café Armani, House Paris, de Ralph Lauren.
Café Kitsune aussi.
Café Kitsune Louvre. Tu as Tiffany qui a des cafés-bars à New York. Donc, en fait, l'intérêt des marques de luxe pour ce secteur, il existe, mais je pense que c'est vraiment une démarche de branding plus qu'une démarche de business.
En tout cas, je pense que s'ils se lancent vraiment dans l'alimentaire, ils le feront plutôt en Asie. Je pense qu'après le Japon, ils essaieront peut-être Hong Kong, la Chine, Singapour. Je ne sais pas si un jour ils feront un Louis Vuitton café sur les Champs-Élysées. On peut imaginer à côté de leur flagship des Champs.
Oui, pourquoi pas.
Mais en tout cas, c'est à suivre, à mon avis. Louis Vuitton qui se lance dans le chocolat et les cafés.
Moi, je serais juste curieux de goûter leur chocolat, en fait. Ils travaillent avec qui pour ces chocolats ?
N'hésitez pas à nous envoyer une boîte si vous nous écoutez.
Si mon ancien collègue nous écoute, n'hésitez pas. On sera ravis de goûter, tester et vous envoyer notre feedback. On va terminer donc avec la rubrique préférée des Darina, c'est les bons plans télé. Ensuite, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Donc, vu à la télé, France 2, derrière nos étiquettes, toutes les clés pour bien choisir des œufs.
Oui, c'est un petit reportage qui vous explique comment bien choisir vos œufs en fonction du numéro qui est affiché sur la boîte d'œufs et faire la distinction entre les œufs bio, les œufs de plein air, les œufs issus d'élevage intensif. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière le numéro 0, le 1, le 2. Donc je vous invite à le regarder, c'est un petit reportage sur France 2.
Et sinon, il y a un deuxième reportage que j'ai regardé et je recommande vivement, c'est La Grande Malbouffe, c'est sur Arte. En fait, ils reviennent sur l'explosion de la malbouffe en France et pour illustrer ça, ils essayent de reproduire en labo la production d'un cordon bleu industriel. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte que pour faire un cordon bleu industriel, on a besoin des 30 ingrédients et je te jure, Olivier, la majorité, ce sont des poudres.
Ouais.
Donc j'invite nos auditeurs à regarder cet épisode, c'est passionnant et je pense que ça va vous aider à mieux comprendre l'univers de l'agroalimentaire et de la malbouffe. On va finir avec la rubrique réseaux sociaux. D'abord, c'est Uber Eats qui crée la polémique aux US en fait. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, tout à fait. A priori, Uber Eats aurait dépensé plus de 5 millions de dollars pour un spot de pub dans lequel il y a des stars qui appellent à soutenir les restaurants. Donc c'est Dan Price sur Twitter qui a fait un petit commentaire en disant: d'un côté, Uber Eats dépense 5 millions pour payer des stars pour soutenir les restaurants. Et de l'autre, ils appliquent une commission de 30% à ces mêmes restaurants.
Ouais, moi en fait, j'aime pas trop cette démarche, en fait, parce qu'on vient dépenser du budget marketing avec des célébrités pour aider les restaurateurs. Franchement, je pense qu'il y avait d'autres façons d'aider les restaurateurs. Je ne suis pas forcément fan des Burger King, mais je préfère largement leur stratégie de communication qui, là, du coup, supporte concrètement des restaurateurs et des producteurs.
Ouais, tout à fait.
Et sinon, on va terminer avec un tweet qui fait rire. En fait, c'est un nouveau segment des business né suite à la pandémie.
Oui, tout à fait. Moi, ça m'a bien fait marrer. C'est une fermière anglaise qui s'est mise pour le fun à proposer de faire participer une de ses chèvres à des réunions Zoom pour un montant de 5 euros. Et en fait, c'était une blague à la base. Et finalement, elle a déjà, avec ce service, récolté 60 000 euros.
60 000 euros ?
Ouais, pour avoir une chèvre à vos réunions Zoom. Donc,
j'adore.
Si vous voulez animer un peu vos réunions Zoom avec une chèvre, n'hésitez pas à faire appel à cette femme-là.
Quelle bonne idée. Ben, on félicite cette dame et on va terminer avec ça. Et Olivier, merci beaucoup encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business.
Au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt !